chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles.
Le tableau est magnifique. Sur le grand escalier des ambassadeurs à Versailles, Louis XIV, en 1674, s'apprête à accueillir le grand Condé, récent vainqueur de la bataille de Sénèves contre Guillaume d'Orange. Dans cette toile de 1878, Jean-Léon Gérôme témoigne 200 ans après l'événement de l'aura militaire de ce grand chef de guerre, en médaillon du temps de sa splendeur sous le pinceau de Juste d'Egmont. Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, fut à la fois un héros des champs de bataille sous Louis XIV et un traître, pactisant avec l'ennemi. Son retour en grâce lui permit de renouer avec son aura militaire et d'exercer un rôle de protecteur des arts. Une exposition au château de Chantilly explora les facettes de ce premier prince du sang qui ne manqua que d'être roi. Marie-Émilie Fourneau pour Point de vue. C'est par la fin que Marie-Émilie Fourneau a choisi de commencer l'histoire de ce grand homme. Quel astre brille davantage dans le firmament que le prince de Condé n'a fait dans l'Europe. Ce n'était pas seulement la guerre qui lui donnait de l'éclat. Son grand génie embrassait tout, l'antique comme le moderne, l'histoire, la philosophie, la théologie la plus sublime et les arts avec les sciences. À entendre l'oraison funèbre de Bossuet, l'évêque de Meaux, résonner dans Notre-Dame de Paris, Louis II de Bourbon, prince de Condé, incarne le parangon du prince idéal. Un panégyrique à la mesure de la pompe grandiose déployée dans la cathédrale ce 10 mai 1687. Mais puisqu'il faut une fois parler de ces choses dont je voudrais pouvoir me taire éternellement, confie le prédicateur, les épisodes sombres de la Fronde et de son alliance avec les Habsbourg ne sont pas occultés. la réaction de Louis XIV suite au trépas du Grand Condé survenu le 11 décembre 1686 au château de Fontainebleau apporte du crédit à l'éloge de Bossuet. Ce fidèle du prince défunt qui lui dédiait déjà sa thèse de théologie en 1648. Séjournant au même moment dans son palais Bellifontain, le roi, ne pouvant rester sous le même toit qu'un mort, quitte les lieux pour laisser reposer le corps du défunt dans une chambre mortuaire. Un fait exceptionnel, tel un dernier honneur rendu à son glorieux cousin. Les heures sombres sont bien pardonnées. Le premier prince du sang l'a-t-il même jamais véritablement trahi? Les princes de Condé, depuis la fondation de la lignée par Louis Ier, frère d'Antoine de Bourbon, le père du roi Henri IV, ont certes eu la réputation d'être une dynastie de rebelles. Ils se sont en effet illustrés lors des guerres de religion et des révoltes nobiliaires pour finir par tourner la page de la contestation et s'allier au cardinal de Richelieu. Éduqué par son père dans la loyauté au souverain, Louis II goûte aux avantages du ralliement au pouvoir monarchique. Sa victoire à Rocroi, remportée en 1643 à 22 ans contre les Espagnols, porte le crédit politique de la lignée à son comble. Il devient l'espoir militaire de la monarchie, fragilisée par la mort de Louis XIII et l'ouverture de la régence. À chaque année, sa campagne, menée sur des fronts différents, Fribourg en 1644, Dunkerque en 1646 ou Lens en 1648, afin de faire reculer les Habsbourg et obtenir une issue favorable à la guerre de 30 ans. Confortant sa position de grand chef de guerre, le jeune duc d'Enghien, qui ne prend le titre de prince de Condé qu'à la mort de son père en décembre 1646, s'affirme comme le soutien indispensable de la couronne. Le mythe d'un nouvel Alexandre est en marche, véhiculé par l'arsenal de la propagande construite par les Condés. La capacité de Louis II à mobiliser son important réseau de parents, d'alliés et de protégés pour le service du roi va s'avérer décisive. En 1648, le Parlement de Paris s'oppose à la politique de Mazarin, à ses mesures fiscales, déjà. Le peuple de Paris et une partie de la haute noblesse prennent part à la révolte. Le grand Condé s'y oppose, appelant à la loyauté dans les provinces dont il est le gouverneur. Il prend la tête des troupes royales chargées d'assiéger Paris à l'hiver 1649. Ayant sauvé la couronne, il tient une place prépondérante dans le conseil de régence et réclame toujours plus de charges pour lui et pour son clan. Devenu à son tour menaçant pour le cardinal et la régente, il est arrêté le 18 janvier 1650 et passe un an en captivité, notamment à Vincennes. Sa sœur, la duchesse de Longueville, et son épouse, Claire Clémence de Maillé-Brézé, soulèvent en représailles les provinces. Sous la pression, dans la nuit du 6 au 7 février 1651, Mazarin est contraint de fuir. Le grand Condé, libéré, prend alors les armes. La fronde condéenne est lancée. Louis II constitue une armée, signe des traités avec l'Espagne et marche sur l'île de France pour se heurter à Turenne, commandant de l'armée royale. Les combats se cristallisent le 2 juillet 1652 autour du faubourg Saint-Antoine, aux portes de Paris. Une autre frondeuse, la grande mademoiselle, fille et héritière de Gaston d'Orléans, sauve Condé en faisant tirer le canon depuis la Bastille contre l'armée du roi, son cousin, et ouvre ainsi les portes de la capitale au prince et à son armée. Mais Condé, en laissant entrer les Espagnols, instaure une terreur, le rendant odieux aux Parisiens. Devant fuir Paris, où le roi fit une entrée triomphale, le 21 octobre 1652, il se réfugie avec ses fidèles aux Pays-Bas espagnols. Alors que les princes de Condé constituaient l'un des piliers de la royauté, Louis II devient donc un fugitif. Déchu de son rang de prince du sang, il est condamné à mort par contumace par le Parlement de Paris. Aux Pays-Bas, il devient généralissime des armées d'Espagne. Suivent 7 années émaillées sous la nouvelle bannière d'échecs militaires. Le 7 novembre 1659, lors de la signature du traité des Pyrénées entre la France et l'Espagne, du sort du prince, il est question. En échange d'une soumission totale à Louis XIV, son cousin, Condé est rétabli dans ses biens, honneurs et privilèges et reçoit même en apanage le Bourbonnais. Le roi y trouve son compte, lui qui a besoin de ce prince du sang, chef de guerre et de sa clientèle. Comme le souligne Mathieu Deldic, conservateur au musée Condé de Chantilly, il faut garder à l'esprit que la fronde de Monsieur le Prince ne fut pas dirigée contre le roi, son cousin, mais contre le Mazarin. La nécessaire réconciliation savamment orchestrée, le prince Condé retiré à Chantilly, une période de purgatoire. Un retour en grâce par étapes. Parmi elles, la grande promotion du 31 décembre 1661, année du décès de Mazarin, ordonnée par un roi qui entame son règne personnel. Le grand Condé, son fils, le duc d'Enghien, et son frère, le prince de Conti, reçoivent l'ordre du Saint-Esprit. Son aura militaire est restée intacte. Louis II est également rappelé sur le champ de bataille, s'illustrant dans la guerre de Dévolution 1667-1668 et la première partie de celle de Hollande 1672-1675. De Goutte, il met un terme en 1675 à sa carrière militaire et se consacre à l'autre versant de sa légende. De Chantilly, selon l'historienne Katia Béguin, il fait un anti-Versailles, plus libre et tolérant. En émulation avec le roi, en 1662, il confie la création de son parc à Le Nôtre et la rénovation du château à Ardoin-Mansart. Sa protection est recherchée par les savants en butte à la censure et les auteurs de pièces proscrites à Paris, tels Molière avec son Tartuffe. Boileau, Racine ou La Fontaine se retrouvent aussi à Chantilly pour animer une cour littéraire à peine interrompue par de brillantes fêtes. L'une d'elles est donnée en 1669 pour Jean II Casimir Vasa, alors ancien roi de Pologne, dont Condé fut un temps candidat à la succession. Le château est merveilleusement décoré. La galerie des batailles à Chantilly est décorée à la fin du XVIIe siècle par Ardoin-Mansart, premier architecte de Louis XIV. 11 toiles y illustrent les principales victoires du grand Condé. Les festivités les plus célèbres et funestes pour l'intendant Vatel, qui n'a pas survécu à la pression, restent liées à la visite, en avril 1671, de Louis XIV et de sa cour. La vitalité de la cour de Chantilly est à l'image de son mécène, grand protecteur des arts, des sciences et remarquable serviteur de la couronne malgré son incartade. Sans doute, comme le suggère Mathieu Deldic, le grand Condé a-t-il moins cultivé la rivalité avec le roi que la différence ? Madame de Lafayette y aurait peut-être trouvé une objection. Elle qui écrit en 1673 à Madame de Sévigné, son amie, « De tous les lieux que le soleil éclaire, il n'y en a point un pareil à celui-là. » Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi. Celle-ci était enregistrée pour vous par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.